Bonjour, j'habite à Mayotte où je suis enseignante, professeure d'histoire-géographie et j'ai appris la présence de Monsieur Mermet dans l'île. Alors, ce que je souhaite vivement, parce que on entend dire tellement de choses et si peu quand on est en métropole et quand on est à Mayotte, comme moi depuis 4 ans, on découvre petit à petit des réalités. J'espère qu'il s'est documenté en particulier, il a consulté 2 ouvrages majeurs, Mayotte, l'illusion de la France de Yves Salès et Comores Mayotte, une histoire néocoloniale de Pierre Caminade. Vraiment, ce sont 2 ouvrages qui éclairent sur la situation actuelle de Mayotte. Et on peut se poser une question, c'est la question que je me pose de plus en plus. Mais qu'est-ce que la France fait ici? Pourquoi elle déstabilise ces 4 îles des Comores? Pourquoi elle établit une rupture entre les îles? Il y a une déstabilisation complète, une acculturation, alors qu'on remet en cause la présence de la France dans ces colonies. Qu'est-ce qu'elle fait encore ici? La colonisation n'est plus de mise. Alors pourquoi ne pas laisser ce peuple s'épanouir, collaborer avec lui, l'aider, c'est vrai, mais s'épanouir dans sa propre harmonie. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. On croit qu'avec des primes, avec de l'argent, avec le RMI, avec les allocations familiales, tout s'achète. On le voit au référendum successif où on consulte la population. Ils souhaitent rester français, mais ce n'est pas une adhésion sensée. C'est amoral. Alors j'espère que cet aspect pourrait être évoqué et dans les émissions futures sur Mayotte. Au revoir.
Merci Daniel Mermet et toute ton équipe de nous donner autant de rêves. C'était un beau voyage. Je ressens en même temps que vous l'émotion qui filtre au travers de mon transistor. Et je t'assure qu'en ces moments de Noël, c'est très beau. Merci encore.
Alors là, je donne la pite.
Faut boire cul sec. Vous êtes à l'ouest? À l'est?
Par rapport à ici, non, on est à l'ouest, au sud.
Donc vous êtes à l'ouest? Vous êtes à l'ouest?
Ah oui, on est à l'ouest. On est à l'ouest.
Bon ben, la maison Mermet, voilà, c'est ce qu'on vous demande, c'est nous faire planer un peu. On est au chômage, tout ça, on est en galère. Mais les mecs, faites-nous planer, ça picole, ils sont heureux, c'est des gens sympas. La traductrice est géniale, on sait pas qui c'est une super bonne femme. C'est bien éclatant, ça change un peu de l'ordinaire, des banlieues, tout ça. On sait très bien, on est complètement d'accord avec, mais au moins, putain. Faites-nous planer, les mecs, c'est ça qui manque aux gens dans la vie. Un bon grand moment de planitude, ça fait du bien. Alors les nénettes, c'est des gens fabuleux, on les aime. Des gens comme ça, on a envie d'en croiser tous les jours. Et puis voilà. Allez, encore un petit coup d'émission à votre santé.
Pierrot, le divin enfant, qui courait dans l'herbe joyeux comme les autres, en rentrant du boulot. Petit Papa Noël, il a bu son verre comme d'habitude, qui a eu cette idée folle de sonner les matines. Entendez-vous, c'est agréable dans nos campagnes, tiens, voilà du boudin, le jour de gloire est arrivé. Ha, ha! Tu me fais tourner la tête et nous ferons de chaque jour héros, héros, petit patapon, toute une éternité d'amour.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, de belles histoires pour nos petits enfants.
Flight number 2. arriving from.
L'enfance est-il aussi merveilleux que ça? C'est ce qui va être mis en doute jusqu'à 18h sur France Inter. De belles histoires pour les petits-enfants et les anciens petits-enfants à l'occasion des fêtes. Mais... seront-ce bien des fêtes de fin d'année?
Le petit chaperon rouge trottinait dans les grands bois, quand soudain une ombre bouge, c'est un loup, un gros loup à l'œil sournois, qui se dit en voyant la gamine, j'ai besoin de vitamines, je vais faire un bon petit repas froid.
Tire, tire, tire la chevillette, tire et la topinette chéra.
Où allez-vous donc, fillette? Lui demande le loup gourmand. Je vais porter une galette et un petit pot de beurre à ma mère grand. Qui habite cette maisonnette? Allez vite, mignonnette. Et merci, merci pour le renseignement.
Tire, tire, tire la chevillette.
Tandis qu'elle cueille des noisettes, il court vite chez la mère grand. Et d'un seul coup de fourchette, il avale presque toute la bonne maman. Pour la tête, se fait une vinaigrette, mes chemises, bonnet, lunettes. Puis se couche dans le lit en ricanant. Tire, tire,
tire la chevillette, tire la bobinette chéra.
Tirez
la bobine, chéra.
Elle entra dans la chaumière, s'écria en la voyant, que vos bras sont longs, grand-mère, c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant, que vos yeux, vos oreilles, vos molaires ont grandi, bonne grand-mère, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Mais le petit chaperon pas bête, se rappelant la fin de l'histoire, prit une grosse clé à molette et lui ferma soigneusement la mâchoire. Puis doucement au loup bavant de colère, je t'ai laissé bouffer grand-mère, mais faudrait tout de même pas me prendre pour une poire. Le petit pot et la galette, c'est chaperon qui les mangera. Il faut toujours, ma grosse bête, se méfier d'un plus petit que soi.
Tire, tire, tire la chevillette, tire
et la
bobinette
chéra.
Tire, tire, tire la chevillette, tire et la
bobinette chéra.
Et voilà. Monsieur C.
Au pays de l'alphabet, où les lettres sont des êtres, Monsieur C devenait minuscule. plus personne ne voulait de lui. Toujours occupé à l'abaisser, son voisin, Monsieur D, le trouvait ridicule. Il se voyait très rarement, à part dans les enterrements, quand quelqu'un était décédé. De l'autre côté du palier vivait la belle Madame B. Sans cesse en silence, C rêvait de ses boucles, ses pleins et ses déliés. Même en majuscule, elle n'était pas trop ronde comme Madame O ou trop frêle comme Madame L. Il rêvait d'elle, surtout la nuit, avec des bottes D, Q, I, R, sur un cheval qui N, I. Mais C était trop coincé. Il voulut lui envoyer une lettre, mais il ne sut jamais laquelle. Un soir, qu'il rêvait encore dans la rue des conjugaisons, il la vit passer, enlacée au bras de A. « Eh oui, lui dit une voix, B-A-B-A, tout le monde sait ça. Ils sont attachés depuis toujours, il n'y a que toi pour ignorer ça, présomptueux petit C. » C'était bien sûr la voix de D. Le cœur brisé, Monsieur C se mit à en vouloir au porte-plume qui l'avait engendré. Il traînait dans les marges, il voulait s'abréger. Mais, un soir dans un bar, il rencontre le K. Un ami à lui, qui le remplace parfois dans les mots des langues lointaines où les Kanaks vont en kayak et les Kakis boivent le kawa. « Mon cher ami, dit Monsieur K, allez donc voir Monsieur E. Il pourra vous aider. Il a tellement de succès dans les dictionnaires de français. » C alla voir E, célèbre pour ses casquettes aiguës et ses bérets graves. Mais on lui dit qu'il était dans l'eau, on lui dit qu'il était muet, et Monsieur C s'en retourna. Chemin faisant, il croise Y, le philosophe. « Pourriez-vous m'aider ?» demande C. « Circule, virgule, ou je t'apostrophe !» lui dit le savant courroucé. Et C va par les rues de plus en plus courbées. En passant, il donne machinalement un coup de poing sur un I qui pourtant ne lui avait absolument rien dit. C'est assez. C'est assez. J'ai besoin de ma R.E. Mais un soir, alors qu'il errait dans les forêts de l'alphabet, en passant près d'une rivière, il entend chanter un air. M, M, il faut aimer. M, M, tu seras aimé. En écartant un peu les branches, Monsieur C voit Mademoiselle U, qui dans l'eau nage toute nue. Elle a toute ôté, tant elle H-O. C fut frappé par la beauté du. « C'est elle !» se dit-il, « c'est elle !» Il court se mettre en majuscule, il chausse sa plus belle cédille, « c'est elle, c'est elle !» Il croit ses amis, « elle O !» lui dit Hervé, « tu es plein d'énergie !»« Elle O !» lui dit LN, qui fait ses H-A, car elle a K-C, sa Q-I-R-A-T. « Tu es tout énervé !» Mais sans écouter, il court, et enfin il s'arrête, tout boule R-C-E. Il tombe au pied de la lettre. Depuis longtemps, je vous cherchais. J'ai traversé tout l'alphabet et c'était bien monotone. Oh, je vous aime, jolie voyelle. Nous sommes faits sur le même modèle pour quelqu'un qui s'est dessiné. 13 M-U-U ne sait plus où se mettre. Je reçois tellement de lettres. Elle était employée dans un ordinateur. Le soir même, à 5 heures tapantes, il se retrouvait derrière l'imprimante. Et voilà qu'à son tour, juste avant le premier baiser, U entendit l'air enchanté. M, M, il faut aimer. M, M, tu seras aimé. Alors, comme une parenthèse, le cœur du s'ouvre assez pour laisser passer C. Bien vite, le bruit se répandit et chacun sortit de sa boîte aux lettres afin de composer des mots et des phrases au hasard qui montèrent dans un autocar pour aller à la noce qui eut lieu dans l'Aisne. La petite U était très belle, avec son chapeau circonflexe et sa robe en calligraphie. Faute d'orthographe et photographe, tout le monde était invité. À la sortie de la mairie, on donna des coups de klaxon qui faisaient des points d'exclamation. Une petite virgule se ferma, une grosse parenthèse sur les doigts, mais bien vite on la consola. « Ouvrez les guillemets !» dit le « A ». Alors, la fête commença. Les 10 chiffres invités arrivèrent en premier, à part le numéro 3 qui s'était perdu dans les bois. Chacun sur son 31 s'était mis en 4. On put voir le numéro 6, qui mangeait beaucoup de saucisses. Il y avait les frères 7, 8, 9, tout contents dans leurs habits neufs. Il y avait des caractères venus des quatre coins de la terre, des Russes, des Arabes, des Chinois qu'on ne comprenait vraiment pas, venus d'Éthiopie, d'Arménie, hiéroglyphes et graffitis dans des robes de gala. Le cousin W, venu d'Angleterre, mangea du H.I. à la petite Q.R. L'inconnu Monsieur X fit une apparition en jetant sur la table de façon regrettable quelques mystérieux points d'interrogation. Il y avait un tiret qui avait bu un coup de trop, il voyait double et savait pas s'il parlait à un point ou à un tréma. Et pour faire rigoler la noce, tonton Y faisait le Z. Enfin, pour mettre un point final à la fête, il y eut un grand bal, et toutes les lettres dansèrent au son d'un vieil abécédaire. Les mariés, pour leur lune de miel, partirent 8 jours en italique. Puis, à Paris, ils logèrent chez le G, pas très loin de la tour Eiffel, dans un petit livre en carton. Pour ne pas faire d'indiscrétion, arrêtons ici cette histoire avec des points de suspension. C'était l'histoire de Monsieur C, qui épousa Mademoiselle U. La dernière fois que je les ai vus, ils attendaient un petit cul.
Coiffé d'un large sombrero, vêtu d'une veste à carreaux et chaussé de bottes légères, hier dans une boîte de nuit, on vit arriver, seul sans bruit, un homme d'allure étrangère. Ses yeux avaient des reflets verts, c'étaient les reflets des pelouses. Sa voix avait un timbre clair, il avait l'accent de Toulouse. Un peu plus tard, quand il sortit, en donnant son ticket de vestiaire, la dame du vestiaire lui dit cette phrase très singulière. Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Monsieur, monsieur, pour un pur sang dans un vestiaire, c'est triste de passer la nuit entière sans même coucher sur une litière. Comme il s'ennuyait et comme il bâillait, je chantais pour qu'il soit sage. Comme il avait faim, que j'avais plus de pain, j'ai donné un peu de potage. Monsieur, monsieur, chose pareille est anormale. Ne laissez pas ici cet animal, vous oubliez votre cheval. 50 ans plus tard, le jockey à ses petits-enfants expliquait aux vieux aventures invraisemblables. Il avait un sourire amer, et comme il se croyait loup de mer, il jurait et crachait à table. Tout en mâchonnant un mégot, il y allait de son bavardage. Il ne parlait que de cargo, de tangpita et d'abordage. Mais les petits enfants pas dupés, montrant un tableau qui s'effrite, s'écriaient grand-père, ce beau pré, c'est-il amer? Ou Maison Lafitte. Grand-père, grand-père, vous oubliez votre cheval. Vous nous menez en bateau, c'est normal, mais vous n'êtes pas amiral. Grand-père, grand-père, jamais vous ne fûtes corsaire. Et vous n'avez connu le mal de mer que lorsque vous montiez prospère. Dites-nous plutôt, comment à plutôt vous avez connu grand-mère. Comment à Paris, le soir du Grand Prix, vous êtes foutu la gueule par terre. Grand-père, grand-père, vous n'êtes pas un vieux loup de mer. Vous n'êtes pas non plus un amiral, vous oubliez votre cheval.
Alors, on continue. Chers petits enfants, chères petites têtes blondes et innocentes, aujourd'hui, des histoires uniquement pour vous dans la base si j'y suis jusqu'à 18h sur France Inter. Voici l'histoire de Gustave Faublère.
La base ici.
Imaginez un nez avec deux bras de chaque côté, un nez avec deux yeux tout rapprochés, un nez avec en dessous deux jambes et deux pieds. C'est le nez de celui qu'on a surnommé Gustave Faublère. Son nez, qui traîne par terre, ça fait bien rigoler. Partout on se moque de lui, partout on le montre du nez. Dis, ta mère s'appelait pas Cléopâtre et ton père s'était pas Cyrané? Eh, c'est vrai que l'année où t'es né, t'étais le plus gros nouveau-né? Les enfants lui jettent des pierres. Tu devrais le mettre dans une charrette, ce serait moins lourd à porter. Et Gustave sent la moutarde qui lui monte au nez. Et cette moutarde, ça le fait pleurer. Et ses larmes, ça le fait renifler. Et quand il renifle, ça fait comme le tonnerre. Et tout le monde, même sa mère, se sauve effrayé avec la police et les pompiers. C'est que, s'il se mettait à éternuer, ça ferait encore une tempête qui emporterait tout le quartier. Seul, assis au bord du trottoir, Gustave sort son mouchoir qui est grand comme un drap. Pendant des heures, il reste là, nez au vent, car heureusement, pour le consoler, il y a les odeurs. Surtout le soir, surtout en juin, surtout après la pluie quand les odeurs sortent de leur coquille. Il met son nez au balcon et elles viennent danser et fredonner comme des amies, juste pour lui. Des odeurs qui viennent de loin. Le parfum d'une goutte de bière sur la lèvre d'une rousse amoureuse à Dublin. L'encre d'une lettre d'un vieil ami qui vient d'avoir un fils quelque part au Chili en descendant la cordillère. Des parfums que vous ne pouvez pas imaginer si vous n'avez pas un gros nez. Raffiné, effréné, satiné, vallonné. Et même l'odeur de papier brûlé des étoiles filantes qu'on voit tomber dans la mer en été. Et même l'odeur du passé. L'odeur du café dans la cafetière quand Napoléon était énervé. Un poil de chat sur la cuisse de la reine de Saba affalé dans ses falbalas. Et même, il sentait le parfum des bruits. Il flairait la musique au lieu de l'écouter. Cette musique, c'est des pétales au pied d'un lit. Cette mélodie, c'est la chevelure de ma mère où je m'endormais tout petit. Avec son gros nez, il sentait même l'odeur d'un regard, quand on le regardait. L'odeur d'un sourire, quand on lui souriait. Le parfum de l'amour, quand... Le parfum de l'amour, mais personne ne l'aimait. Quand il se réveillait, il sentait sous son nez les difficiles pépins de la réalité. La vie qui recommençait à tourner comme une sale vache autour de son nez, qui avait encore grandi, grandi, grandi encore pendant la nuit. On raconte qu'il avait tenté de travailler dans une fabrique de parfums, mais les produits chimiques lui donnaient des boutons. Il avait été aussi clown dans un cirque, mais il fallait tellement de rouge pour lui faire un nez rouge, on n'en avait jamais assez. Même les militaires l'ont poussé à faire la guerre. « Avec ton nez comme un canon, tu n'as qu'à éternuer !» « Ça me retombera sur le nez, » répondait Gustave Faublère. Un beau jour, quand même, il tombe nez à nez avec une jolie demoiselle. Jolie, oui, avec un nez à peu près comme le sien, peut-être légèrement plus fin. Elle s'appelait Dulcinée, et Gustave l'invita à dîner. Entre eux, tout fut instantané. Mais... quand le bec enfariné, il voulut l'embrasser, ce fut impossible, son nez l'a gêné. Même dans les positions les plus effrénées, il y avait toujours ces satanés nez. À la fin, vexé, Dulcinée est parti sans se retourner, et le cœur tout désordonné, il vit s'éloigner son amour mort-né. Dans le noir, il ne sait pas quoi faire. Gustave, il s'assoit par terre. Il met les doigts dans son nez. Il met ses doigts. Et soudain, il met aussi sa main, et son bras, et son pied, et sa cuisse, et sa casquette, tout. Tout est rentré dans son nez. Tout, son corps tout entier. Il ne manquait plus que son nez. Alors, il a fait aussi rentrer son nez. pour qu'il soit à l'abri de la pluie, de la poussière et des cruautés de la vie. Et dans cette rue, j'ai vu disparaître de ma vue Gustave Faublère et son nez, qui fut le plus gros de la terre.
Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi, pourquoi pas?
Monsieur Brin d'Avoine avait 400 maisons. Parfaitement. Monsieur Brin d'Avoine avait 400 maisons et pourtant aucune ne lui donnait entière satisfaction. Il en possédait de toute nature et de toute dimension. L'une était si petite qu'elle tenait dans la main. Le toit s'envolait avec un doigt. La clé était une allumette. Une autre était si grande qu'il y avait des montagnes dans les chambres, des paquebots dans les lavabos, des forêts dans les cabinets. Celle-ci était tellement haute que seule une échelle pouvait y loger, et encore c'était une échelle de pompier. Une autre était tellement lourde qu'elle s'était enfoncée dans la terre jusque chez les Chinois, si nombreux, et qui pourtant n'avait jamais vu ça. Mais il en avait une aussi qui était fort légère, tout en plumes, et si on ouvrait la fenêtre, on pouvait s'envoler. Il avait une maison avec une clé, tirée par un cheval qui marchait au bord d'un canal. Il avait une maison, c'était un violon. Il faisait sécher son linge sur les cordes, et l'archet glissait et ça l'énervait, ce monsieur Brin d'Avoine et ses 400 maisons qui ne lui apportaient aucune satisfaction. Pourtant, on ne peut pas dire que Brin d'Avoine manquait d'imagination. L'une de ses maisons était si large qu'une ligne d'horizon pouvait s'y coucher. Avec les îles, les cocotiers, les nuages en chemise, l'océan déchaîné. Il en avait une, c'était une gare. Des locomotives sous les couvertures vous tenaient compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens vous tenaient par la main. Une autre comportait 5 doigts en laine, et les passants disaient « Oh, cette maison vous va comme un gant !» Il en avait une construite en nostalgie, les murs étaient en miroir, les fenêtres en Arménie, les porte-bagages et les parapluies. Oui. Monsieur Brin d'Avoine avait passé sa vie à courir, à construire, à dessiner, à vendre, à acheter, palais, grottes, tentes, gratte-ciel, nids, roulottes, cabanes dans les arbres et château neuf du pape. En réalité, sans le savoir, il avait consacré son existence à rechercher la toute première maison qu'il avait habitée. La toute première, une maison au fond de la mer. Sans ascenseur, mais sans étage, sans fenêtre, mais sans mur, sans cheminée, mais sans toiture. Une mer, dedans, quand on nageait, c'est comme si on volait. Les oiseaux n'ont pas de mémoire, mais la mer le sait. Les oiseaux ne sont que d'anciens poissons, et je m'adresse aussi aux perroquets. Monsieur Brin d'Avoine, donc la mer, c'était donc sa toute première maison. Une mer qui vous berçait, vous balancez, vous roulez, vous sucez. Le lobe de l'oreille, vous parlant tout bas. Et qui vous racontait qu'autrefois, avant d'être la mer, elle était une île, une petite île, une ancienne petite île. Et d'autres histoires encore. Ou bien de la musique, elle faisait de la musique, du saxophone. Et de la batterie. Oui, au fond de la mer, jour et nuit, on entend jouer un batteur de génie. C'est le cœur de la mer, qui change de rythme et de couleur selon ses émotions. La lettre qui arrive, une chanson à la radio, une colère, un bouquet, un avion, un instant d'hésitation, et l'homme de sa vie dans l'escalier qui lui mordit le cou. Et le batteur change de rythme à chaque coup. Et puis l'amour, quand la mer fait l'amour, force 5 sur Gascogne et Cap Finistère. Et lui, au fond de cette maison, brin d'avoine, pris entre les feux de l'amour et les grognements du père dans les bras de la mère. Tous, vous m'entendez? Au fond de nos ténèbres, nos moelles et nos vertèbres, nous gardons le goût de ça, la stupéfaction de l'amour, l'infracassable noyau. Quand la vie est imprenable, juste avant le point du jour. Jusqu'au jour où il y eut cette tempête, cyclone sur les Açores, grand fort sur Forti, ébaloté, ballonné, écrasé, aspiré, explosé, expulsé, il a été précipité au fond de la mer, bousculé, étouffé, écrasé. Monsieur Brin d'Avoine s'en va par le fond, les parois se déchirent, et au fond de la mer, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben c'est comme dans une baignoire, il y a une bonde, et la bonde s'est ouverte, comme une fenêtre ronde ouverte sur le monde, et l'eau s'en va en tourbillon, il franchit une montagne russe, où il est écrit « Col de l'utérus ». Il traverse un palais secret, une grotte miraculeuse. Sa tête touche le plancher, ses épaules frottent le plafond. Son ventre s'écrase contre les murs. Et finalement, poussé par les éléments, la tête baissée comme un bélier, les yeux fermés et sans papier, ramené à la frontière, à la lumière exorbitante de la vie au grand air, Monsieur Brin d'Avoine est passé par où tout le monde est passé. Il est né. Ce fut une explosion dans sa poitrine et dans ses poumons. C'est un garçon, a dit quelqu'un. Un garçon nommé Brin d'Avoine, et qui depuis a eu 400 maisons qui jamais ne lui ont donné entière satisfaction.
Je ne suis pas content.
Ah non, alors. Ah non, non.
Il a volé mon amour et je ne suis pas content.
Alors, pas content du tout, alors.
Non, non, non. On a volé mamie et je pleure tout le temps. Oh, je l'aimais à la folie, elle m'aimait tout autant.
Ah oui, je le croyais.
Et c'était pour longtemps,
très longtemps.
Oui, c'était pour la vie, mais la vie n'a qu'un temps. Oh, ma maman. c'était la belle vie.
Ah oui, alors.
Elle était toute à moi. Pourquoi est-elle partie?
Oui, ah oui, pourquoi?
Elle était toute à moi. C'est l'autre qu'elle a choisi.
Ah oui, ça alors.
Je lui ai tout appris. Elle a eu du bon temps.
Ça, on peut le dire, ça.
Je lui ai tout appris, on a eu du bon temps. Maintenant c'est fini, c'est l'autre qui est content.
Ah là là, celui-là alors.
Il était un grand mur blanc, nu, nu, nu. Contre le mur, une échelle, haute, haute, haute. Et par terre, un hareng sort, sec, sec, sec. Alors il monte à l'échelle, haute, 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 et plante le cou pointu, tout en haut du grand mur blanc, nu, nu, nu. Il laisse aller le marteau qui tombe, qui tombe, qui tombe. Attache un clou à la ficelle, longue, longue, longue. Et au bout, le hareng sort, sec, sec, sec. Il redescend de l'échelle, haute, haute, haute. L'emporte avec le marteau. Loup, 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 et puis il s'en va ailleurs, loin, loin, loin. Et depuis, le hareng sort sec, 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 au bout de cette ficelle, longue, 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 très lentement se balance, toujours, toujours, toujours. J'ai composé cette histoire, simple, 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 pour mettre en fureur les gens graves, 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 et amuser les enfants petits, petits, petits.
Je me baladais sur les boulevards lorsque je rencontre l'ami Bidard. Il avait l'air si estomaqué que je lui ai demandé de s'expliquer. Eh bien, voilà, me dit-il, je viens d'avaler ma pendule. Alors je vais chez le chirurgien, car j'ai une peur de chien que ça me tombe dans les vestibules. Je revois mon copain. Il avait l'air tout ce qu'il y a de plus rupin. Alors je suis été le trouver et je l'avons sommé de s'expliquer.
Eh bien voilà, me dit-il, je gagne ma vie avec ma pendule. J'ai su l'estomac, un petit cadran, je vends le rein de poulet passant.
En attendant que j'ai le cadran sur les vestibules.
À la faltie,
à la faltie,
il suicida,
il suicida,
lorsqu'il eut vu que personne l'a
comme j'arrivais,
et comme j'arrivais,
juste sur le chantier,
juste sur le chantier, moi je lui ai demandé qu'il vienne s'expliquer.
Eh bien voilà, me dit-il, j'en avais assez d'avoir une pendule,
une pendule,
ça m'empêchait de dormir la nuit, pour la remonter fallait me faire un trou dans le dos,
je préférais être pendu, pendu. Lorsqu'il fut mort, je vais à son enterrement, c'était le matin, ça m'ennuyait bien. Mais lorsqu'il fut dans le trou, parce qu'on rigola, quand au fond de la bière, le septième coup de midi, ta-ta. Eh bien, voilà, 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 il avait avalé une pendule. Ça n'arrive pas à tous les chrétiens, même à ceux qui ont un estomac de chien et du cœur dans les vestibules.
Voilà, celui qui avait avalé sa pendule, c'est un poème de Raymond Queneau. Frère Jacques qui chantait ça. Et auparavant, je vous ai dit un poème de Charles Cros, le Arensor, le célébrissime Arensor. Et les autres histoires, c'est des histoires que j'ai écrites au cours de ces années de radio. Il y a bien longtemps, pour certaines, au temps de L'Oreille en coin et au temps de France Culture, une petite émission que je faisais, une petite séquence qui s'appelait Interdite aux adultes, où j'avais raconté un jour l'histoire de Rigaudin, parce qu'autrefois, Rigaudin, c'était le plus grand comédien. Rigaudin était célèbre dans le monde entier, et le monde entier venait au théâtre le voir jouer. Il était jeune, il était beau. Partout, on voyait sa photo sur les affiches, dans les journaux. Rigaudin, le grand comédien. Et dans le plus grand théâtre de Paris, Rigaudin jouait une pièce avec un seul personnage, un vieux. Un très vieil homme qui racontait sa vie. Et Rigaudin le jouait si bien, il savait si bien se courber, marcher à petits pas et faire trembler un peu sa main comme ça que le public n'en revenait pas. Alors il restait là pour applaudir Rigaudin, le grand comédien. Chaque soir, Rigaudin arrivait au théâtre 2 heures avant le spectacle. Il s'enfermait dans sa loge devant son miroir. Avec le plus grand soin, il se maquillait comme on fait un dessin. Il mettait d'abord un fond gris pâle, un peu fané, puis avec un crayon, il dessinait les rides autour de la bouche et autour des yeux. Avec un gris plus foncé, il faisait des joues en creux. Avec un peu de mauve, il traçait des cernes sous les yeux. Il mettait une perruque, avec seulement quelques cheveux blancs, et des petites lunettes en fer sur le bout de son nez tombant. Et enfin, il enfilait son costume. Un vieux costume de vieux. Dans le théâtre, le public attendait l'instant où Rigaudin apparaîtrait. Enfin, dans la salle, la lumière s'éteignait. Les 3 coups battaient comme le cœur des spectateurs. Le grand rideau rouge se levait. On ne voyait rien. Juste un peu de lumière. Quelqu'un qui toussait. Et puis un pas qui arrivait à petits pas. Rigaudin. La frêle silhouette ressemblait à une branche morte que le vent d'hiver fait bouger. À peine si on entendait la voix fragile raconter l'histoire irréparable. Parfois, il s'arrêtait, le regard suspendu, comme si quelqu'un allait venir, un fils, un camarade, un amour de jeunesse. Et tout le temps passé, tout le temps perdu, risible silhouette écrasée par l'immense nuit qui marche. Enfin, sa main bougeait un peu, comme un adieu. Cœur serré, souffle retenu, mouchoir blanc dans le noir. Et à la fin, c'était une explosion de bravo. 10 fois, 20 fois, Rigaudin venait saluer. Mais pendant qu'on l'acclamait encore, il regagnait sa loge,
par un petit escalier dérobé, et là, il s'enfermait à clé. Devant son miroir, il se démaquillait. Il enlevait les lunettes en fer, il enlevait la perruque avec les quelques cheveux blancs, il enlevait les rides et les cernes violets. Comme on gomme un dessin, il effaçait son personnage. Il enlevait ses habits de vieux et il retrouvait les siens, les élégants habits du grand comédien ricadin. Devant la porte, les admirateurs l'attendaient avec des bouquets, des billets, des femmes très belles, des ambassadeurs, des princes ottomans, tous les grands de ce bas monde se pâmaient. Quelle merveille, c'est un magicien, quel est son secret, il faut l'inviter au palais. Mais par une petite porte, Rigadin s'en allait. Et c'était ainsi tous les soirs. Rigadin, en effet, avait-il un secret? Il ne répondait à aucune question. Il préférait rentrer chez lui à pied sans se presser. C'était le mois de mai, et dans la nuit parfumée avec son long manteau et son grand feutre noir, le grand comédien faisait sonner sa pommeau d'argent sur le boulevard Saint-Germain. Il prend une petite rue pavée qui conduit vers la Seine. C'est par là qu'il habite, au numéro 3, au 6e étage, juste sous les toits. Il monte le premier étage d'un pas léger, une raison de se presser, personne ne l'attend. 6 étages, c'est haut. Rigadin ne va pas trop vite, la représentation l'a un peu fatigué. Et quand même au 4e, il s'arrête pour souffler. Il monte plus lentement, plus péniblement. Enfin, voici le 5e. Encore un étage à monter. Le grand comédien, épuisé, monte marche par marche en se tenant à la rampe. Plus que 3 marches. 2, 1... Devant sa porte, il reprend sa respiration. Avec des gestes ralentis, il trouve enfin sa clé. Il entre, il allume une lampe et il se laisse tomber à bout de souffle dans un vieux fauteuil devant un miroir. Et alors, il essuie lentement son visage. Et voilà des rides qui apparaissent autour de la bouche et autour des yeux. Sous les yeux apparaissent des cernes mauves. Il frotte encore, et voilà ses joues qui se creusent. Il enlève sa perruque et voici son crâne, avec quelques cheveux blancs. Alors, en tremblant, il met ses petites lunettes en fer au bout de son nez tombant. Et dans le miroir apparaît enfin le vrai visage de Rigadin.
C'était « Là-bas, si j'y suis ». La plupart des chansons que vous avez entendues aujourd'hui étaient extraites de la compilation « La chanson française présentée aux enfants » aux éditions Frémaux et Associés. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site de Radio France à la rubrique émission « Là-bas, si j'y suis ». À la technique ce soir, il y avait Lidouine Caron et Stéphane Devernay. À la mise en onde, Antoine Chao et Yann Chouquet. Assistante Pascal Pascariello, le chef répondeur Christophe Imbert et le téléphone du répondeur 01 56 40 37 37. Et tout de suite, on retrouve Daniel Mermet qui est en direct de La Réunion.
Eh oui, je suis en direct de La Réunion. Je suis en transit à La Réunion. On revient des Comores, on revient de Mayotte. Et là, on est en transit à La Réunion et on va prendre l'avion pour être demain à Paris et puis fêter Noël avec nos petites familles, les uns et les autres. Enfin, les uns et les autres, Guy et moi. Donc voilà, bah, c'est une occasion de vous souhaiter à tous les auditeurs de Là-bas, si j'y suis, joyeux Noël. À la demande générale aussi d'Antoine Chao, que je viens d'avoir en ligne, de vous rappeler que le forum social se tiendra à Caracas du 24 au 29 janvier. Ça, il y tient beaucoup. Voilà, joyeuse fête à tous, joyeux Noël à tous. Et on va finir avec cette petite chanson qu'on avait enregistrée bah, justement l'année dernière. Ah, Caracas, c'était un moment heureux, un moment suspendu. Et je vous souhaite à tous, encore une fois, Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Joyeux Noël.
Feliz Navidad. No, quisiera cantarle algo que dice: No sabes el por qué los viejos lloran cuando llega Navidad. No sabes el por qué se sienten tristes cuando un año se nos va. Hoy cumpliendo 36. camino de muchos más, lo he podido averiguar, tuve ganas de llorar, llorar por lo incierto del futuro, y que será un golpe duro si un día falto en mi hogar, y llorar por saber que es imposible que cuando sientan mi ausencia digan feliz Navidad. No quiero llanto, quiero cantar, quiero alegría, ya llegó la Navidad. Ese es el mensaje, ¿ok?
Genial.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
Muchísimas gracias.
Y es la verdad.
Et là-bas, si j'y suis, vous rappelle que le Forum social mondial sera polycentrique en 2006. Il se déroulera à Bamako, au Mali, du 19 au 23 janvier, à Caracas, au Venezuela, du 24 au 29 janvier, et aussi à Karachi, au Pakistan. Les dates ne sont pas encore fixées.